Bienvenue dans le podcast Le Procès du siècle, Délibération citoyenne.
Une série d'entretiens imaginés et produites par le MUCEM, Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée.
Pour cette première saison 2021-2022, il sera question de nous
et de l'usage que nous faisons du monde.
Par exemple, allons-nous vider les océans?
Face au dérèglement climatique, est-il trop tard?
Avons-nous encore la maîtrise du temps?
À chaque épisode, nous appellerons à la barre des excès de nos sociétés contemporaines et irons, avec Lionel Bordeaux et Anne-Cécile Bras,
à la rencontre de deux experts et de paroles citoyennes.
Il y a 50 ans, un mouvement inédit voyait le jour dans l'Aveyron. De nouvelles formes de lutte, de nouvelles mises en relation et solidarité allaient se multiplier dans un endroit aride, désertique et pourtant plein de vie. Un lieu de rencontre entre personnes qui, en principe, n'auraient jamais dû se rencontrer sans l'intervention des pouvoirs publics, qui avaient décidé de réserver les terres des paysans aux militaires. Une étincelle qui a réveillé et éveillé au combat collectif, donc politique. Ce fut la naissance d'un symbole de la lutte. Des femmes et des hommes qui habitaient ce territoire du Larzac et défendaient seulement le droit de vivre et de rester au pays en labourant ces terres calcaires. Le COS allait devenir la cause. Cause qui devait attirer de nouveaux acteurs venant de différents endroits de l'Hexagone et d'ailleurs, jeunes intellectuels, artistes, travailleurs, qui ont vu une opportunité de se lancer dans un nouveau projet et de changer de vie. Le Larzac. Un lieu loin de tout, mais si proche de nous. Un lieu frontière, devenu carrefour des espoirs de toute une génération qui a cru et qui s'est donné les moyens de changer véritablement de vie, en montrant que ces rêves n'étaient pas seulement une utopie et que, oui, à leur échelle, un nouveau monde était possible. D'autres formes d'engagement et de lutte semblables se sont développées plus tard. Les lieux ont changé, les contextes aussi. Il existe toujours néanmoins cette idée de créer de nouveaux espaces communs, des lieux d'échange articulant lutte sociale, créativité et l'idée que nous pouvons changer le cours des choses, comme à Notre-Dame-des-Landes, par exemple.
Bonjour, aujourd'hui nous sommes ici réunis concernant les procès du siècle, délibération citoyenne, zone à défendre versus Gated Communities, où est-on dans cet espace commun? Aujourd'hui c'est moi, Eduardo Castillo, qui va la présenter, avec Jette Lingard, journaliste à Mediapart, auteur de nombreux ouvrages concernant les questions écologiques, et Philippe Artière, historien, directeur de recherche au CNRS, auteur entre autres du Peuple du Larzac, paru aux éditions de La Découverte. Aujourd'hui, il y a quelque chose d'important à signaler, on a entendu les textes tout à l'heure. Il y a quelques questions tout à fait importantes aujourd'hui, j'ai l'impression, pour vous, Philippe Artière. On va parler beaucoup du Larzac aujourd'hui, dans cette rencontre. Il y a quelque chose qui est arrivé il y a une cinquantaine d'années. Pour vous, qu'est-ce qui a représenté justement les Larzac et les textes qui viennent d'être lus tout à l'heure par Grégoire?
La première des choses, c'est que c'est une victoire. C'est-à-dire qu'en 1981, quand François Mitterrand est élu, eh bien, cette lutte sociale, qui est née 10 ans plus tôt, eh bien, elle aboutit à une forme de partage des terres et de gestion des terres tout à fait inédite. Parce qu'elle va être gérée par une association et elle va être tellement inédite que par la suite, plus personne ne voudra de Larzac 2. C'est-à-dire que donc, c'est quelque chose, c'est une histoire très singulière qui commence sur un territoire qui est lui aussi singulier, qui est un plateau à l'extrême sud du Massif central et qui est un plateau frontière. Donc une zone, ces zones frontières, elles sont très disputées et souvent, je dirais, très instables. Or, ce qui se passe à ce moment-là, croyant à l'instabilité de ce plateau, le gouvernement de Pompidou décide d'y installer un camp militaire, dans un moment de dissuasion nucléaire. On est en pleine guerre froide. Et donc, ils veulent absolument ce camp-là, pensant qu'il n'y a rien, pensant que cette terre n'est pas habitée. Et en fait, cette terre est habitée. Cette terre est habitée par des paysans depuis des siècles, avec une pratique, avec une activité très singulière, qui est celle de l'élevage de brebis et de la collecte du lait de brebis. Et ça, c'est très inscrit dans le paysage. C'est-à-dire qu'on a tout un habitat d'hébergeries, un certain nombre de hameaux, qui constitue un véritable, on dirait aujourd'hui, un tissu qui est relié parce que dans ce pays-là, sur le Larzac, on fabrique un fromage qui est connu dans le monde entier, c'est le Roquefort. Et c'est ça qui est intéressant dans l'histoire du Larzac, c'est que, au fond, le lien d'abord entre les paysans, il se fait par la fromagerie, il se fait pas entre eux. Et lorsque le ministre de la Défense annonce l'extension d'un camp militaire, du petit camp militaire qu'il y avait là, à ce moment-là, cette terre qui était quasiment invisible devient un lieu qui va être, vous disiez, une étincelle, c'est-à-dire un lieu extrêmement lumineux, un lieu que toute la France va regarder, voire le monde entier. Précisément, ce n'est pas en produisant de nouveaux objets, mais en prenant ce qui était au centre de leur vie, c'est-à-dire la brebis. La brebis va devenir le symbole de cette lutte. À un moment donné, il y a des épisodes judiciaires. Et les paysans vont investir le tribunal avec des brebis. Plus tôt, dès 72, on monte à Paris. On monte en tracteur, avec des étapes, avec tout un mouvement de solidarité, c'est-à-dire que le Larzac n'était pas connu, mais le Larzac, par des comités, se fait connaître de plus en plus. Et puis on va occuper le dessous de la Tour Eiffel, le Champ de Mars, avec des brebis. C'était une nouveauté. Enfin, c'était pas seulement une nouveauté, c'était aussi une forme d'action absolument inédite et qui marque les imaginaires. Et c'est peut-être sur cet aspect-là que le Larzac est le plus fort. C'est-à-dire, c'est comment il a réussi, et pas seulement jusqu'au 80, à marquer les imaginaires. Je prends un autre exemple qui est bien connu de Jade, qui est en 1999, une société McDonald's construit sur un des pans du Larzac, côté Millau, sous-préfecture, donc un restaurant fast-food. Et les paysans du Larzac vont descendre, démonter ce restaurant, littéralement le démonter.
L'image est restée parce qu'il y a eu José Bové qui participait.
Mais pas seulement parce qu'il y avait José Bové, parce que c'était un geste d'une intelligence politique très forte, parce qu'il touchait aux imaginaires, et aux imaginaires mondiaux. Parce que chacun voyait dans le monde ce qu'était un reste, ce qu'était cette, on les connaît, ces petites maisons McDonald's. Et soudain, ils disaient non, on ne veut pas de ça. Et par conséquent, à Millau passaient beaucoup de vacanciers. Et au lieu de s'arrêter au McDonald's, les paysans ont distribué des tartines de Roquefort.
Vous parlez des Millau. Millau, à l'époque, tout le monde s'arrêtait parce qu'il n'avait pas l'autoroute à 75. Donc, il avait les rapports d'un côté entre les Larzac et Millau. Et après, tout ça a changé. Ça a évolué parce que l'autoroute est passée, il a l'aqueduct. Et puis, ça change radicalement la façon de faire lien, de faire un rapport entre les Larzac et justement les villes environnantes.
Oui, alors il y a notamment une lutte qu'on a totalement oubliée, c'est que l'A75 a fait l'objet d'une mobilisation. Il y a beaucoup de gens qui étaient opposés à l'A75. Puisqu'on était sur les imaginaires, c'est pas du tout neutre. C'est-à-dire que pour être allé enfant en Aveyron, on ne cessait de faire des courbes. Et quand on introduit la ligne droite, ce n'est pas tout à fait la même chose parce que ça ne produit pas les mêmes visions du paysage, ça ne produit pas le même rapport à l'espace. Le rapport de la 75, c'est un rapport de travelling. C'est-à-dire qu'on tourne la tête et le Larzac, c'est 7 minutes et demie, enfin, peut-être 10 minutes. Quand il s'agit de monter la côte de la cavalerie, c'est tout autre chose. C'est-à-dire que progressivement, on sait qu'on quitte la vallée du Tarn et qu'on va aller de l'autre côté, sur un plateau calcaire, et soudain, avec ce paysage désertique, le regard, il ne cesse de changer. Alors qu'avec l'autoroute, on passe sur le lac-Duc et hop, on est quasiment à Montpellier. L'idée étant de relier Paris à Barcelone. Avec quelques stops, finalement, la 75, c'est pas autre chose qu'un rond-point non plus. C'est-à-dire, c'est comment on accélère nos circulations dans l'espace.
Et tout est question des flux et des flous aussi, parfois. Parce que si on relie un peu, c'est ce qui s'est passé d'un côté au Larzac et à Notre-Dame-des-Landes. Notre-Dame-des-Landes, c'était au départ une histoire d'aéroport. Vous parliez 99, mais dans l'imaginaire aussi, j'ai le sentiment aussi que ça a beaucoup joué aussi cette période-là chez les personnes qui sont allées à Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que je me trompe ?
ça a beaucoup joué, c'est vraiment la question du lieu et du site. C'est évidemment très significatif que le plateau du Larzac aujourd'hui soit un lieu tellement modifié, impacté par ces infrastructures dont parlait Philippe Artière, et donc cette question de l'ascension sur le plateau et l'enjeu de comment est-ce qu'un lieu, un lieu paysan, un lieu rural, un lieu agricole est modifié et bouleversé et parfois détruit par ces infrastructures de transport contemporaines, c'est au cœur des luttes écologistes d'aujourd'hui. Et ça a été un des très grands enjeux de la lutte de Notre-Dame-des-Landes, qui pour le coup n'est pas du tout un plateau, qui est un paysage extrêmement plat, avec des zones humides, avec une forêt, avec des étangs, avec des champs, avec des prairies, et avec des fermes dont beaucoup étaient abandonnées quand la lutte contre l'aéroport s'est relancée en 2008. Des fermes qui avaient été abandonnées parce que depuis plusieurs décennies, un projet d'aéroport était dans les tuyaux.
Les premiers opposants à Notre-Dame-des-Landes, ce n'a pas été les gens de la ZAD, ça a commencé bien, bien avant.
Ce qui est assez fascinant dans l'histoire de l'aménagement de Notre-Dame-des-Landes, c'est que cette appellation de ZAD, qui est devenue aujourd'hui dans notre imaginaire contemporain une zone à défendre, en fait, à l'origine, c'est une zone d'aménagement différé. En fait, la ZAD, c'est un terme administratif qui a désigné, dès le milieu des années 1970, le fait qu'à cet endroit, l'État avait prévu de construire un aéroport et donc avait mis en place une réglementation urbanistique qui réservait, en quelque sorte, cet endroit pour y construire cette infrastructure. Et donc, ça a eu plein de conséquences, et notamment le fait qu'au bout d'un moment, les paysannes et paysans qui souhaitaient s'installer, plutôt ne s'installaient pas là, parce que savaient que ce serait forcément précaire, puisque cet aménagement était prévu. Et donc, on est vraiment dans un endroit qui était planifié pour être bétonné et construit. Les ressources, si on peut dire, de la nature étant extraordinairement malicieuse, du fait de cet aménagement différé et donc du gel, en quelque sorte, de la construction sur cette zone, puisque donc plus aucun lotissement n'y a été construit et plus aucune maison n'y a été construite du fait de cette prévision d'aéroport, la nature a repris tous ses droits. Et donc, zone humide, étang, forêt, a prospéré. Et tout ça a fait qu'en 2008, lorsque le gouvernement a relancé ce projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Donc, il faut dire, on est à côté de Nantes. On ne l'a peut-être pas dit, là, on est en Loire-Atlantique. Donc, Nantes, c'est aussi un enjeu de métropole. De la même manière que derrière l'autoroute qu'évoquait Philippe, il y avait l'idée d'un axe Paris-Montpellier-Barcelone. Nantes, il y avait l'idée un peu du troisième aéroport parisien, dans l'idée qui a été au cœur d'une certaine vision de la modernité urbanistique française, qu'il y aurait une sorte de gigantesque métropole, pas uniquement métaphorique, qui relierait Paris à Nantes. Et que donc, on pourrait finalement, ce serait indifférent d'habiter à Paris, dans la périphérie parisienne ou à Nantes, que tous ces endroits, en fait, pourraient se rapprocher par des autoroutes et des aéroports. Donc, il y avait vraiment un imaginaire de la ville, mais d'une ville au sens le plus moderniste et le plus bétonné du terme, où quelque part tout se vaut. Et ce qui est très beau, il me semble, dans l'histoire de la lutte de Notre-Dame-des-Landes, c'est que justement, c'est une résistance contre un aéroport. Mais très vite, les gens qui sont venus habiter la zone ZAD, qui était devenue zone à défendre, ils sont venus contre l'aéroport et son monde. Et en fait, le « et son monde » est très vite devenu beaucoup plus important que l'aéroport. Bien sûr, l'aéroport était l'argument, l'opération directe mise en place, voulue par l'État. Mais derrière, ce qui jouait, c'était le monde de l'aéroport. Donc justement, ce monde de cette ville sans limite, mais ville, je dirais, au sens métropolitain, c'est-à-dire presque au sens négatif du terme, industrialisé, normatif, contrôlé, autoritaire, policier et destructeur de la nature, contre l'idée d'une communauté habitante, d'humains, mais venant habiter avec des non-humains, donc venant habiter avec les animaux. Donc très vite, il y a tout un imaginaire bestiaire de la lutte de Notre-Dame-des-Landes qui se déploie, avec notamment le triton marbré. C'est-à-dire que tous les animaux, toutes les espèces animales et végétales qui sont repérées sur la zone à défendre par les personnes qui viennent y habiter pour la défendre vont servir juridiquement à s'opposer au projet d'aéroport, mais surtout vont devenir des voisins, des voisines et des cohabitants de ce territoire et vont en faire, du coup, un endroit dont l'imaginaire, en fait, a été si riche, enfin, il continue d'être si riche, mais je dirais, au passé, on pense au moment vraiment de la lutte, enfin, le moment où la zone était illégale, c'était un squat, c'était une occupation illégale. Ce qui fait que, le projet étant hyper ancien, la résistance à ce projet d'aéroport est, elle aussi, très ancienne. C'est-à-dire qu'il y a des témoignages de paysans dès les années 70, puis années 80, qui tractent à la sortie de l'église contre le projet d'aéroport. Donc, il y a une branche paysanne de la résistance à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Et ensuite, il y a donc tout un mouvement à partir des années 2008, 2009, 2010 de gens beaucoup plus jeunes, souvent urbains, mais pas que, qui sont venus habiter. Et donc, dans ce geste de résistance dont on va parler, et beaucoup contre l'État. Mais là où c'est très émouvant, moi, je trouve, c'est que ces premiers paysans et paysannes qui ont tracté dans les années 80 à la sortie des églises de Loire-Atlantique contre ce projet d'aéroport sont des personnes qui ont participé à la lutte de Larzac. Et donc, il y a eu plein de liens. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont venus, jeunes agriculteurs, sur le plateau du Larzac, manifester contre la construction, contre l'extension du camp militaire, qui sont retournés en vacances avec leurs enfants. Donc, il y a un lien personnel, familial, très fort entre une partie de ces paysans, paysannes et le plateau du Larzac. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que quand la lutte de Notre-Dame-des-Landes a vraiment redémarré, il y a eu plein de liens entre les paysannes, paysans du Larzac et la ZAD, et un soutien, une solidarité paysanne qui s'est maintenue et qui a pris plein de formes, que ce soit de se rendre aux manifestations, d'envoyer des tracteurs, que ce soit d'envoyer du matériel, des semences, des choses comme ça, que ce soit de partager des conseils, enfin en tout cas d'avoir des échanges plus politiques, plus stratégiques. José Bové est venu à plusieurs reprises sur la ZAD. Le lien qui existait entre José Bové et d'autres militantes, militants du Larzac, avec la lutte de Notre-Dame-des-Landes, en fait, n'a pas été transmis, en tout cas a été rejeté, justement, je pense, a été rejeté par le mouvement des habitantes et habitants qui, eux, pour plein de raisons, soit ne se retrouvaient pas dans la lutte du Larzac, soit étaient même en désaccord, en fait, avec ce que le plateau était devenu. Donc, c'est une histoire qui est très riche, mais qui est très tumultueuse et qui est restée passionnelle jusqu'à aujourd'hui, à ma connaissance.
La grosse différence, c'est que ces fameux premiers paysans du Larzac, c'était pas du tout des progressistes. C'était des gens qui, la première chose qu'ils voulaient, c'était conserver leurs terres et conserver le système économique dans lequel ils étaient. Ils ont la jeunesse agricole catholique, dans un pays qui est un pays traversé, l'Aveyron, à la fois par le protestantisme, Millau a été la capitale du protestantisme pendant les guerres de religion, et puis par la franc-maçonnerie, par tout le mouvement radical socialiste, hein, qui est dans toute cette industrie, qui est très proche du Larzac, à savoir la ganterie, les tanneries, etc., etc. Ce qui est, moi, je trouve très, très intéressant, c'est comment cette lutte a émergé sur des questions, je dirais, de vie ordinaire et comment, progressivement, elle s'est agencée à d'autres luttes. Pour vous donner une idée, les Amérindiens, les Native Americans, eh bien, viennent rendre visite aux paysans du Larzac parce qu'eux-mêmes sont en train de défendre des terres qu'on va leur prendre. Les paysans du Sahel sont exactement dans la même situation que les paysans du Larzac, puisque eux-mêmes sont soumis à l'industrie des canons et à l'armée française, puisque à l'époque, il y a une occupation très forte, que ce soit commerciale par la vente d'armes, mais aussi une présence française très forte dans le Sahel. Il y a ce type de solidarité. Plus tard, ce seront les Kanaks qui viendront. Les Kanaks viennent au moment où leur désir d'indépendance est largement réprimé, très violemment réprimé. Donc c'est peut-être cela, parce que ce sont deux lieux. Jeanne Lingard a eu raison de dire à quel point c'était des lieux avec des histoires très contradictoires. Le Larzac, le paysage qui est tant aimé par les Larzaciens, c'est d'abord un paysage de déforestation. C'est un paysage qui a été bouffé par les ovins, par les moutons, par la main de l'homme. Et en fait, cette économie d'élevage, c'est elle qui a aussi rendu ce paysage si complexe, si difficile à vivre. Il fait froid sur le Larzac, y compris l'été. C'est pas facile. Puis l'autre dimension qui me paraît très importante, c'est la question de la loi. C'est des pratiques, disons, de désobéissance ou d'illégalisme. On construit une bergerie alors qu'on n'a pas de permis de construire, mais c'est pas la question.
Il y a aussi des légitimités différentes. Chacun a sa légitimité, légitimité de l'État et la légitimité des paysans. Donc c'est cette confrontation-là qui fait l'originalité de ce qui s'est passé là-bas.
Oui, et puis il y a d'autres légitimités qui arrivent, puisque en fait, les premiers paysans qui sont là, ils sont arrivés dans les années, au milieu des années 60, après l'indépendance de l'Algérie, après le rapatriement d'un certain nombre d'agriculteurs qui ont eu une partie des terres de la vallée de l'Hérault. Et donc, les paysans qui s'installent, jeunes paysans qui s'installent, ils montent sur le plateau sur des terres qui sont assez pauvres. Il y a cette première génération-là. Et puis, il y a une deuxième génération qui, lorsque le mouvement commence à prendre, viennent pour rejoindre, pour véritablement faire corps avec ces paysans, José Bové, et de cela. C'est un squat. C'est-à-dire qu'ils occupent des fermes qui sont à l'abandon. Et progressivement, ça c'est vraiment quelque chose qu'on connaît bien en Amérique latine aussi, on prend la terre et on lui donne une légitimité, et à ce moment-là, c'est incontestable. À partir du moment où on a des moutons, des brebis, où on travaille la terre, il n'y a pas de raison qu'on nous mette dehors.
La raison pour laquelle, sans doute, la lutte de Notre-Dame-des-Landes a eu une telle résonance, un tel écho dans la société française, c'est qu'elle a été un creuset, en fait, de 1000 inventions, que ce soit des façons collectives de cultiver la terre, des façons collectives de s'occuper d'un troupeau de vaches, de faire une radio, Radio Klaxon, qui était une radio qui squattait les ondes de autoroute FM, qu'ils appelaient Vinci FM, que ce soit les manières de décider de comment est-ce qu'on vit à plusieurs centaines de personnes sur un espace squatté, qui est un espace de campagne, qui a été repris à l'État. Donc, il n'y a, a pas l'électricité, pas le chauffage. Faut se débrouiller pour tout, en fait, pour la nourriture, pour l'eau, pour retaper ses maisons. C'est vraiment, ça a été, et c'est toujours, un laboratoire d'auto-organisation extraordinaire au sens propre du terme, c'est-à-dire qui ne ressemble à rien d'autre qui existait en France récemment par la superficie, par le nombre de personnes, par la diversité de ces endroits, entre les gens qui étaient là pour cultiver la terre, les personnes qui étaient là plutôt pour s'organiser, ceux qui étaient plutôt dans l'élevage de troupeaux laitiers, ceux qui venaient par conviction antispéciste, anti-chasse, vegan, profonde, et donc évidemment, toutes ces personnes étant profondément en désaccord sur énormément de choses, donc avec énormément de disputes, etc. Je dis ça parce que l'invention, elle a traversé en fait toute l'expérience de vie sur cette zone, que ce soit la manière de penser un projet collectif de subsistance, parce qu'au bout du bout, c'est quand même de ça dont on parle, à quoi peut servir une terre ? Et comment est-ce que, à partir d'un projet de subsistance sur des terres qui sont des terres nourricières, mais aussi des terres naturelles, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme forme d'organisation humaine qui soit respectueuse de cela et qui protège cela à l'inverse de la construction d'un aéroport pour transporter des cadres au-dessus de l'Atlantique? C'est quoi le projet de vie? Et en fait, il y avait 1000 projets de vie. Et donc, la légitimité, qui n'est pas tellement un mot d'ailleurs que j'ai entendu sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, où on pensait beaucoup plus en termes de lutte ou d'auto-organisation, et beaucoup en termes de contestation de l'intérêt général et de l'intérêt public. C'est peut-être plus autour de ça que ça s'est organisé, c'est-à-dire plutôt, peut-être, si on essaye de faire rentrer un peu la profusion de la créativité de l'expérience sur cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes, plutôt que de légitimité, je pense que si on essaie de rapprocher ça d'un cadre juridique institutionnel, on pourrait regarder la question de la contestation de l'intérêt général, parce que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que cet aéroport de Notre-Dame-des-Landes avait été considéré d'utilité publique, il y avait une déclaration d'utilité publique, et sur la ZAD, sur cette ZAD-là, mais comme sur toutes les autres, la ZAD du Lien à Montpellier, la ZAD du Carnet, toutes les autres ZAD qui se sont constituées dans la foulée, à la suite de Notre-Dame-des-Landes, ont toutes contesté l'utilité publique brandie par l'État pour détruire un espace naturel ou agricole et y faire des infrastructures. Et l'autre aspect hyper important, me semble-t-il, c'est la question de la propriété. De la propriété collective, de toute l'histoire de la ZAD, donc depuis 2008 jusqu'à aujourd'hui, où il y a encore aujourd'hui, même si quelque part l'espace a été entre guillemets légalisé, enfin, pour aller très vite, les personnes ne sont plus menacées d'expulsion, mais en revanche, il y a encore énormément de choses qui ne sont pas dans le cadre légal, à commencer par les maisons d'habitation. Ce qui est posé par les habitantes et habitants de la ZAD, c'est le fait qu'on squatte, on habite quelque part, mais on défend, en tout cas pour certaines et certains d'entre eux, ce qu'on appelle la propriété d'usage. C'est-à-dire de dire, il y a d'autres formes de propriété. Et en fait, le capitalisme et l'histoire républicaine depuis le 19e siècle a enfermé en fait la propriété dans quelque chose d'individuel et dans quelque chose lié à l'acquisition financière, monétaire. Alors que, dans notre droit, il existe bien d'autres formes de propriété. Donc, il y a une juriste, Sarah Van Uxem, notamment, qui a travaillé là-dessus, de dire en fait non, y compris dans le droit français, il y a des bases pour dire qu'on peut considérer, et c'est notamment dans le code rural, que si on est l'usager, l'usagère d'un lieu, eh bien, on en est l'équivalent du propriétaire. parce que c'est pas parce qu'on n'a pas eu l'argent pour l'acheter, par contre on a la personne qui utilise, qui prend soin et qui en fait une base de vie. Bon ben ça par exemple, qui est vraiment au cœur de la lutte de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes encore aujourd'hui, est profondément inspiré par ce qui s'est passé sur le Larzac, avec toute la manière dont sur le Larzac a été inventé un système de gestion collective des terres, société collective des terres du Larzac, qui sont des modèles qui, voilà, c'est un modèle hyper important parce que c'est très ancien aujourd'hui, c'est à plusieurs décennies, et c'est hyper important parce que c'est au cœur de toutes les problématiques du monde agricole contemporain, des problèmes de foncier, etc. Ces luttes, elles sont reliées, Larzac et Notre-Dame-des-Landes, elles sont reliées par ça, mais elles sont reliées pas que historiquement. Ce que je veux dire, c'est que c'est encore des creusets aujourd'hui politiquement hyper utile et hyper combattu par l'État, puisque lorsque l'État a évacué la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en 2018, il a tout fait pour interdire et empêcher les zadistes, comme on dit, de reconstituer un nouveau Larzac. Ça avait été même une déclaration d'Édouard Philippe, Premier ministre de l'époque, en 2018. Il n'y aura pas de nouveau Larzac. Donc on voit bien à quel point c'est des questions encore abrasives, brûlantes politiquement.
Merci d'avoir écouté ce podcast et merci à nos invités Jette Lingard et Philippe Artière. On vous donne rendez-vous aussi pour les prochains épisodes qui seront tout à fait aussi passionnants.
C'était le podcast Le procès du siècle,
Délibération citoyenne.
Une série réalisée en partenariat
avec les amis du MUCEM, Libération, Magma et RFI.
Merci de l'avoir écouté et rendez-vous au prochain épisode.